الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم التاسع من شهر رجب من عام 1434. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous sommes le 19 mai 2013. بعد صلاة العصر. وندخل في الدرس الخامس بإذن الله تعالى من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله. On va entrer aujourd'hui, inshallah, dans le cinquième cours de l'étude du livre Les qualités sublimes du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Hier, on s'est arrêté dans le chapitre concernant la coiffure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tawaqqafna fi babi tarajjul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on a lu certains hadiths. On a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois laissait ses épouses le peigner, et parfois lui-même le faisait. On a appris aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite dans tout ce qu'il faisait, notamment les ablutions. كان يبدأ باليمين عند الوضوء, quand il faisait les ablutions. في ترجله, quand il se coiffait, عليه الصلاة والسلام, il commençait par le côté droit de sa tête, عليه الصلاة والسلام. وفي انتعاله, إذا انتعل, quand il mettait ses chaussures, il commençait par le pied droit. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté le même hadith avec une ziyada, avec un rajout, wa fi sha'nihi kulli, et dans tout ce qu'il faisait, alayhi salatu wa salam. Wa nahnu ra'ayna anna al-maqsuda bi sha'nihi kulli min al-umur al-karima. Et nous avons vu que ce qui est voulu par dans tout ce qu'il faisait, c'est les choses bonne et pure et propre. أما عند الأمور التي ليست كريمة كالتنظيف وغيرها أو غيره فإنه كان يستعمل الشمال عليه الصلاة والسلام. Quant aux choses impures, comme le fait de se purifier, et il utilisait la gauche, comme quand il accomplissait ses besoins, عليه الصلاة والسلام. Le hadith d'aujourd'hui, inshallah, عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا, أي كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى المؤمنين أن يترجلوا ويتمشطوا كل يوم على وجه الاستمرار. كان ينهى عن ذلك إلا غبا, يعني أحيانا يوم يترجل ويوم آخر لا يترجل واليوم الثالث يترجل وهكذا. Donc ce hadith, le compagnon Abdullah ibn Mughaffal رضي الله عنه nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a défendu de se peigner en permanence, c'est-à-dire que il nous a interdit de passer notre temps à se coiffer. Car on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان متوسطا في جميع الأمور, était de juste milieu dans tout ce qu'il faisait. Et parmi les choses dans lesquelles il était dans le juste milieu, le fait de se coiffer alayhi salatu wa sallam. On a vu au début de ce chapitre que il nous a enseigné qu'il ne faut pas se laisser aller comme certains le pensent et ne jamais se coiffer, et il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême qui est que la personne passe son temps à se coiffer. Au contraire, des fois la personne se coiffe sans béli, et des fois elle laisse ses cheveux normalement, elle les laisse comme ils sont, sauf que si ses cheveux s'en mêlent les uns dans les autres et que cela forme une mauvaise apparence sur la personne, à ce moment-là la personne, il lui est demandé de s'arranger, comme on a vu le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud rahimahullah, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti visiter les sahaba dans la maison de Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, ou Jabir ibn Abdillah. Et quand il est rentré chez eux, il a vu un homme qui était complètement décoiffé. Faqal, il a dit, Ama yajidu hadha ma'an yusakkinu bihi sha'ra? Celui-ci n'a-t-il pas trouvé un peu d'eau pour arranger ses cheveux? Ensuite, il a regardé et il a vu une autre personne avec les vêtements sales. Et il a dit, Ama kana yajidu hadha ma'an yarsilu bihi thawba? Et celui-là n'a-t-il pas trouvé de l'eau pour nettoyer son vêtement? Donc le prophète alayhi salam nous apprend qu'on doit être propre. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit passer notre temps devant le miroir comme le font beaucoup de gens, malheureusement. Et c'est pour ça qu'ici le compagnon nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de se coiffer en permanence, c'est-à-dire tout le temps, chaque instant, de prendre soin de ses cheveux sans arrêt. Ce n'est pas de la guidée du prophète alayhi salatu wa salam. Une question se pose. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi interdit aux femmes de se coiffer en permanence? هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الترجل كذلك إلا غبا يعني إلا أحيانا؟ الجواب لا. المخاطبون بهذا هم الرجال. Ceux qui sont pris en compte par cet ordre sont les hommes. Quant aux femmes, المرأة مطالبة بأن تتزين لزوجها. Il est demandé à la femme de s'embellir pour son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la femme pieuse, التي إذا نظرت إليها سرتك. Celle qui, lorsque tu la regardes, elle te rend heureux. Et les savants ont tiré de ce hadith qu'elle rend son mari heureux parce qu'elle s'embellit. Elle s'embellit, elle prend soin d'elle. Donc les femmes ne sont pas concernées par cet ordre qui est cité dans la parole de Abdullah ibn Muraffal radiyallahu anhu. Une autre question se pose. Et c'est une question qui est posée par beaucoup de gens. هل إطالة الشعر من السنة? Est-ce que le fait de laisser ses cheveux s'allonger, les laisser pousser, fait partie de la sunna? نحن رأينا في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في شعره الجمة والجمة هو الشعر الذي يضرب المنكبين. Nous avons vu à travers ces hadiths qu'à la base le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait pousser ses cheveux jusqu'aux épaules. Et cette coupe de cheveux en arabe s'appelle al-jumma. Est-ce que cela veut dire que ça fait partie de la sunna de laisser pousser ses cheveux jusqu'aux épaules ou non? Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad hafidhahullah dit que cela ne veut pas dire que ça fait partie de la sunna de laisser pousser les cheveux jusqu'aux épaules. Ensuite, il dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça à son époque, car les gens, le milieu dans lequel il vivait, les gens qui étaient dans ce milieu avaient cette coupe. C'était une chose connue. كان هذا من عادة القوم ومن العرف عندهم. Une chose connue parmi les habitudes de ce peuple. لكن إذا كنا في قوم ليس هذا من عادتهم. Et si on se retrouve dans un peuple où cela ne fait pas partie de ses coutumes ou de ses habitudes, ce n'est pas demandé de le faire. Puis le Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah a cité la réponse de Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. فقد سئل عن هذا هل إطالة الشعر من السنة أم لا. Le Cheikh a été interrogé concernant les cheveux, est-ce que le fait de les laisser pousser et de laisser s'allonger fait partie de la sunna ou pas? Qala rahimahullah, le Cheikh a dit, la, al-jawab la, laysa min as-sunna. La réponse, non, cela ne fait pas partie de la sunna. Pourquoi? Limadha? Qala li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ittakhadahu haythu inna an-nas fi dhalika al-waqt yattakhidunahu. car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette coupe, car le milieu dans lequel il vivait, les gens qui étaient dans ce milieu laissaient cette coupe de cheveux. Il dit: ولهذا لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبقيه. وفي هذا فقه هذا الشيخ وفهمه السديد. Et on voit la bonne compréhension de Cheikh Al-Uthaymin رحمه الله qui dit: la preuve en est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un jeune garçon qui s'était rasé une partie de la tête, un dégradé comme on appelle ça en français, il s'était rasé une partie de la tête, le prophète alayhi salam a dit à ce jeune: rase toute ta tête ou laisse pousser tous les cheveux. Cheikh Al-Uthaymin dit: si cela faisait partie de la sunna de les laisser pousser, il ne lui aurait pas dit rase toute ta tête ou laisse pousser les cheveux, il lui aurait dit laisse pousser tes cheveux, ce qui montre que ce n'est pas de la sunna de le faire. Il dit: فَعَلَى هَذَا فَنَقُولُ اتِّخَاذُ الشَّعْرِ لَيْسَ مِنَ السُنَّةِ. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah conclut en disant: à partir de là, nous disons que laisser pousser et allonger les cheveux ne fait pas partie de la sunna. لَكِنْ إِنْ كَانَ النَّاسُ يَعْتَدُونَهُ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ. Mais s'il est dans un milieu où les gens le font, alors qu'ils le fassent. Pourquoi? لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم مخالفة القوم الذي يعيش معهم إلا إذا كانوا في معصية. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous a enseigné de ne pas se différencier des gens dans les vêtements et dans l'apparence, les gens avec lesquels on vit, c'est-à-dire parmi les musulmans. Lorsque tu vis dans un pays parmi les pays des musulmans, il est demandé religieusement que tu aies à peu près les mêmes vêtements qu'eux et la même tenue que les gens. Et tu ne dois pas te différencier du peuple duquel tu vis s'ils sont musulmans et si leurs habits sont respectent les règles religieuses. À savoir, ils ne sont pas des vêtements entièrement rouges ou ils ne sont pas serrés ou transparents de sorte qu'on ne voit pas la awra, ou bien pour les hommes qu'ils ne tombent pas au-dessus des chevilles. Et si toutes ces conditions sont respectées, il est demandé aux musulmans, quand ils se trouvent avec des musulmans, de ne pas se différencier d'eux. C'est pour ça que le Cheikh Rahimahullah ici dit que s'il est avec des gens qui ont l'habitude de le faire, il n'y a pas de mal à ce qu'ils le fassent. Et le Cheikh Abd al-Razzaq, Hafidahullah, Al-Abbad, dit: Al-Amru fi hadha wasi'. L'affaire est vaste. Celui qui veut laisser pousser, tant qu'il ne croit pas que c'est une sunna, il n'y a pas de problème à ce qu'il le fasse. Et celui qui ne veut pas le laisser, qu'il le fasse aussi, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas croire que c'est une sunna de le faire, car ce n'est pas une sunna, comme le Cheikh nous l'a dit. Le Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, dit aussi: وَلَكِنْ يَنْبَغِي التَّنْبِيهِ. Mais il faut attirer l'attention عَلَى أَمْرٍ مُهِمْ, sur une question très importante. أَلَا وَهُوَ عَدَمُ التَّشَبُّهِ سَوَاءٌ بِالْكُفَرِ أَوْ بِالنِّسَاءِ. Qu'il est interdit de ressembler aux kuffars ou aux femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui cherche à ressembler à un peuple en fera partie. Et il dit aussi: La'ana Allah al-mutashabbihina min ar-rijal bin-nisa. Qu'Allah maudisse les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. Donc à partir de là, si la personne qui laisse pousser ses cheveux, elle les laisse pousser d'une façon où elle va ressembler avec sa coupe aux kuffars ou bien aux femmes, alors là ça lui est interdit, là ça lui sera interdit. Et malheureusement aujourd'hui on trouve beaucoup de gens qui laissent pousser leurs cheveux et qui utilisent des produits pour les faire briller jusqu'à ressembler à des femmes, et certains même malheureusement utilisent des produits sur leur visage pour faire briller leur visage. Et même peut-être qu'ils prennent les produits de leur sœur dans la salle de bain. Et à la fin, quand il sort, entre lui et sa sœur, il n'y a aucune différence. Ma'al asaf. Malheureusement. هذا ما يتعلق بترجل النبي صلى الله عليه وسلم. Voici ce qui est cité concernant la coiffure du prophète عليه الصلاة والسلام. Le chapitre suivant, Bab al-Wahwa al-Bab al-Khamis, ma ja'a fi shaybi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre concernant les cheveux blancs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit qu'on a trois chapitres concernant les cheveux. Le premier, le chapitre dans lequel on nous décrit les cheveux du prophète alayhi salatu wa sallam. Le deuxième, le chapitre dans lequel on nous décrit la coiffure du prophète alayhi salatu wa sallam. Et le troisième, celui dans lequel on nous décrit les cheveux blancs et les poils blancs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الباب متعلق بصفته الخلقية فلا نزال نتكلم عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية. Ce chapitre est toujours en relation avec la description physique du prophète عليه الصلاة والسلام. والشيب هو تحول لون الشعر من السواد إلى البياض. Ce qu'on appelle al-shayb dans la langue arabe, c'est le changement de la couleur des cheveux. C'est-à-dire que les cheveux vont passer de leur couleur initiale, à savoir le cheveu noir ou bien blond ou bien roux, vers la couleur blanche, al-shayb. Et on va voir dans ce hadith plusieurs choses concernant les cheveux blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-maqsoud min hadha al-bab, ce qui est voulu par ce chapitre, هل وجد فيه شعر أبيض؟ أتيل دي cheveux blancs عليه الصلاة والسلام وإن وجد فما مقدره؟ Et s'il a eu des cheveux blancs, combien il en a eu, à quel point il en a eu عليه الصلاة والسلام. Car nous allons voir que les compagnons nous ont donné le nombre exact de cheveux blancs du prophète صلى الله عليه وسلم. و كان شيبه عليه الصلاة والسلام يسيرا. Nous allons voir que les poils blancs du prophète عليه الصلاة والسلام étaient très peu. Il n'en avait pas beaucoup عليه الصلاة والسلام. Et certains compagnons les ont comptés. بعض الصحابة عدوا شعر النبي عليه الصلاة والسلام البيضاء أو الأبيض. Ils ont compté les cheveux blancs du prophète صلى الله عليه وسلم. وقالوا بأن شيبه عليه الصلاة والسلام كان في ثلاثة مواضع. Ils ont dit que les poils blancs du prophète صلى الله عليه وسلم se trouvaient dans trois endroits. Le premier, الموضع الأول, ما يقال عنه العنفقة. العنفقة هو الشعر النابت بين الشفة السفلى والذقن. هذا اسمه عنفقة في اللغة العربية. النبي صلى الله عليه وسلم avait des poils blancs dans ce qui est appelé en arabe al-anfaqa, le nom que l'on donne pour les poils qui poussent entre la lèvre inférieure et le menton, c'est-à-dire ici. صلى الله عليه وسلم. Deuxièmement, كان له شيب في صدغيه. والصدغ هو الاسم هو الشعر الذي ينبت بين العين والأذن هنا فكان له شيب في هذا الموضع وهذا الموضع في اللغة العربية يسمى الصدغ. Le prophète صلى الله عليه وسلم avait des cheveux qui poussaient sur ce qui est appelé en arabe al-sudr, c'est-à-dire la tempe. La tempe, c'est l'endroit qui est au milieu de là, entre l'œil et l'oreille, ici la tempe. Il avait certains cheveux blancs ici, alayhi salatu wassalam. Troisièmement, firras, sur la tête, sallallahu alayhi wa sallam. الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. La preuve en est ce que nous rapporte Anas ibn Malik. Il nous dit رضي الله عنه ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ نبذ يسير. أنس بن مالك nous dit le prophète صلى الله عليه وسلم ne se teignait pas les cheveux il n'avait des poils blancs que sur la anfaqa, ici, la tempe et la tête, sallallahu alayhi wa sallam. Donc à travers ce hadith-là, à travers ce chapitre-là, nous allons parler des cheveux blancs du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. الحديث الأول عن قتادة رحمه الله قال قلت لأنس ابن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود بهل خضب الخضاب هو تغيير الشيء إلى الأحمر أو الأسود إلى غير ذلك تغيير لون الشعر قال لم يبلغ ذلك أي ما كان يحتاج إلى ذلك لقلة شعره الأبيض عليه الصلاة والسلام إنما كان شيبا في صبغيه ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم والحناء هو ما يستعمل لتغيير اللون إلى الأحمر والكتم إلى الأسود donc Anas ibn Malik رضي الله عنه il y a le compagnon le tabi'i Qatada رحمه الله qui dit j'ai demandé à Anas ibn Malik رضي الله عنه si le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم se teignait. Est-ce qu'il changeait la couleur de ses cheveux ou pas? Est-ce qu'il utilisait la teinture? Alayhi salatu wa salam. Anas lui répondit, il n'est pas arrivé à cela. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il n'a pas eu besoin de le faire puisque ses cheveux n'étaient pas tous blancs. Il n'avait que très peu de cheveux blancs. Donc il n'est pas arrivé au stade où il aura besoin d'utiliser la teinture. C'est clair, inshallah. Donc Qatada lui demande, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait la teinture pour changer la couleur de ses cheveux? Anas lui dit, il n'avait pas besoin de le faire, il n'était pas arrivé à un stade où il fallait changer la couleur de ses cheveux, car il n'avait que très peu de cheveux blancs sallallahu alayhi wa sallam. Anas dit, il en avait seulement un peu aux tempes. Les tempes, c'est ce qu'on appelle en arabe as-sidr ou as-sudr, et c'est l'endroit qu'il y a entre l'œil et l'oreille, entre l'œil et l'oreille. Par contre, il dit, Abu Bakr radiyallahu anhu a teint ses cheveux avec du henna, du henné et du katam. Et al-henna ou al-katam, le henné et le katam sont deux plantes qui sont utilisées pour la teinture. Al-henna, c'est une chose que vous connaissez tous. Ça sert à changer la couleur des cheveux vers le rouge. Et le katam, ça sert à changer la couleur vers le brun. Donc c'était des produits qui étaient utilisés par les sahaba radiyallahu anhum. Et il y a une version authentique de ce hadith عند مسلم قال أنس بن مالك رضي الله عنه وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا. Anas nous dit, dans la version que l'imam Muslim nous rapporte, il dit que Abu Bakr radiyallahu an utilisait la teinture avec al-hinna et le katam, c'est-à-dire qu'il mélangeait. كان يغير لون شعره رضي الله عنه وهو يستعمل هاتين المادتين الحناء والكتم الكتم. Il utilisait pour changer la couleur de ses cheveux, radiyallahu anhu, le henné et le katam. Donc le rouge et le noir. Et ça donnait une couleur qui penchait vers le marron. Yamil ila al-bouni. Ila vers la couleur marron. Et quant à Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il n'utilisait que al-henné. C'est-à-dire qu'il changeait la couleur vers le roux, vers le rouge. Radiyallahu anhu. وإلا فإن تغيير اللون إلى الأسود الخالص لا يجوز لون الشعر. Le fait de teindre les cheveux pour leur donner une couleur noire est interdit en islam. Il est permis de se teindre les cheveux mais pas de la couleur noire. Et ici, Abu Bakr utilise le henna ou le katam. Il mélangeait les deux. Et ça donnait à la fin une couleur qui n'était pas la couleur noire. Radiallahu anhu. ولكن سنرى أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا هل اختضب النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ Mais plus loin, nous allons voir que les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام eux-mêmes ont divergé. Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a utilisé la teinture ou pas? Et nous allons voir plusieurs paroles dans les hadiths qui vont venir, inshallah ta'ala. أما أنس بن مالك قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الخضاب أي لم ما غير لون شعره عليه الصلاة والسلام قال أنس بن مالك son avis c'est de dire que le prophète صلى الله عليه وسلم n'utilisait pas la teinture, il ne se teignait pas les cheveux عليه الصلاة والسلام كما نرى في هذا الحديث كما هو ici. Qatada lui dit, hal khadada Rasulullah, hal baddala lawna sha'ri, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se teignait? Il répond, qala lam yablugh dhalik, il n'a pas atteint ce stade, il n'a pas eu besoin de se teindre puisque ses cheveux blancs n'étaient que très peu. Donc ici Anas nous dit qu'il ne s'est pas teint les cheveux sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, والحديث التالي وهو حديث أنس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. سبحان الله. أنس بن مالك نجي Je n'ai compté sur la tête et la barbe de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que 14 cheveux et poils blancs. Mada nastafidu min hadha? Qu'est-ce que tu tires de cette information? Qu'est-ce que tu tires de ça? Hein? Sahaba radiallahu anhum, les compagnons regardaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un point où il comptait les poils blancs de sa tête et de sa barbe. Comment faire, subhanallah? Hada li shiddati mahabbatihim lin nabi alayhi salatu wa sallam. Cela nous montre le grand amour qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hada al hadith yuwafiq al hadith al awwal min hada al kitab. Et ce hadith-là est en accord avec le premier hadith de ce livre. Ma huwa? Quel est ce hadith? Na'am. Anas ibn Malik nous dit, wa hadha fi al-hadith al-awwal min hadha al-kitab, qala Anas ibn Malik, wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sha'ratan bayda. Anas ibn Malik nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et il n'avait pas, quand il est mort, plus de 20 poils blancs sur sa tête et sur sa barbe. Al-maqsoudu bi ra'si sha'ri, ay sha'r ra'si. Et quand on dit sa tête, on parle des cheveux de la tête. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il n'avait pas sur sa tête et sa barbe 20 poils blancs. Ici, il nous dit bit-taqrib, à peu près. Amma huna bid-dabt. Quant à ici, avec précision, il nous dit 14. 14 poils blancs, sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha, nastafidu min hadha, anna shayba an-nabi alayhi salatu wa sallam kana yasira. Et on tire de, comme leçon ici, que les poils blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas nombreux. Il n'en avait pas beaucoup, alayhi salatu wa sallam. Al-hadith al-tali, le hadith suivant. عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. Ici on va avoir une autre information concernant les poils blancs du prophète sallallahu alayhi وسلم. سماك بن حرب التابعي dit: j'ai entendu Jabir ibn Samura, qui est un compagnon sahabi, qui a été interrogé, qui a répondu à une question sur les cheveux blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un lui a demandé comment étaient les cheveux blancs, les poils blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jabir ibn Samura a répondu à cette personne qui lui a posé la question: lorsqu'il pommadait ses cheveux, il ne paraissait pas avoir de cheveux blancs. Lorsqu'il ne se pommadait pas, on en voyait quelques-uns. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدهن لحيته وشعره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait une sorte de pommade huileuse, une sorte d'huile, avec laquelle il passait sur les poils de sa barbe et ceux de sa tête, alayhi salatu wa salam. Et quand il le faisait, on ne voyait plus ses poils blancs, alayhi salatu wa salam. Et à partir de là, certains savants ont dit: wa min huna qala ba'du ahli al-'ilm anna an-nabiy alayhi salatu wa salam lam yahtadib wa innama kana yadhanu ra'sahu wa idha dahana أصبح شيبه لا يرى ولذلك قال بعض الصحابة أنه كان يخضب. C'est pour ça que certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se teignait pas les cheveux. Mais la raison pour laquelle parfois on ne voyait plus ses cheveux blancs, c'est qu'il se pommadait les cheveux. Il passait un produit huileux sur sa tête et sa barbe. Et quand il passait ce produit sur ses poils, on ne voyait plus la blancheur du peu de poils blancs qu'il avait, alayhi salatu wa salam. Donc certains ont dit que en fait il ne s'est pas teint les cheveux, et ils disent, donc ces savants là disent, que ceux parmi les compagnons qui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa salam se teignait les cheveux, en fait ils parlaient du fait qu'il se pommadait les cheveux, donc il ne se teignait pas les cheveux sallallahu alayhi wa salam, que ce soit avec al-hinna ou avec al-katam, la couleur rouge ou avec la couleur brune, alayhi salatu wa salam. Et donc on vient de voir la parole de certains savants radiyallahu rahimahumullahu ta'ala. Donc nous allons voir un autre hadith, le hadith suivant, selon Abdullah, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. Ici, Abdullah ibn Umar رضي الله عنه va nous donner une information qui ressemble à celle de Anas ibn Malik رضي الله عنه. Il nous dit dans le 35e hadith: les cheveux blancs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient au nombre d'environ une vingtaine. Donc on tourne autour d'une vingtaine. Et on a vu que Anas ibn Malik nous a dit particulièrement 14. Ici, Abdullah ibn Umar radiyallahu an yuwafiqu Anas ibn Malik fi al-hadith al-awwal. Abdullah ibn Umar est en accord avec ce que nous a donné comme information Anas ibn Malik dans le premier hadith, du kitab, وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَى, quand il nous dit qu'il n'y a pas sur sa tête et sa barbe 20 poils blancs. La même chose ici qui nous est dit par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Le hadith suivant, عن عبد الله ibn Abbas رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت, أي يا رسول الله أصبح لون شعرك أبيض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. الله أكبر. Sataran, indama sanadurus hadha al-hadith, on va étudier ce hadith-là, on va sortir avec beaucoup de leçons, inshallah ta'ala. Ici, Abdullah ibn Abbas, وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Abu Bakr radiyallahu anhu a dit Ô messager d'Allah, tes cheveux ont blanchi. Donc Abu Bakr s'étonne parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a les cheveux noirs, n'a pas de cheveux blancs. Et un jour Abu Bakr a vu ses cheveux et il a vu des cheveux blancs. Il a dit Ya Rasulallah, qad shibt, ô messager d'Allah, tes cheveux ont blanchi. Ma alladhi shayyabahu, quelle est la chose qui a blanchi ses cheveux alayhi salatu wassalam, quelle est la chose qui a fait que ses cheveux sont devenus blancs? Qala alayhi salatu wassalam, shayyabatni hud, yani surat hud wa surat al-waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha ash-shams kuwirat, yani bi sabab al-ham wa bi sabab yani ta'thir hadhihi as-suwar asbaha an-nabi alayhi salatu wassalam fihi shay. لماذا؟ لأن هذه السور كلها تتكلم عن أهوال يوم القيامة، فكان عليه الصلاة والسلام يخاف وكان له شدة خوف، فلما خاف من أهوال يوم القيامة جاءه الشيء صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu à Abu Bakr. Il lui dit: هود الواقعة المرسلات عَمَّا يَتَسَأَلُونَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَاتِ, on fait blanchir mes cheveux, lui répondit-il. Subhanallah. Quelle est la chose qui a fait blanchir les cheveux du prophète alayhi salatu wassalam? La méditation du Coran. Particulièrement ces sourates-là. Les noms que l'on vient de lire sont des noms de sourates du Coran, des sourates. Pourquoi elles ont fait blanchir les cheveux du prophète alayhi salatu wassalam? Parce que dedans, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des terreurs qui se produiront yawm al-qiyam. Il nous parle des scènes qui arriveront le jour de la résurrection. Yawm yaqumun nasu li rabbil alamin, le jour où les gens se tiendront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yanqasimuna ila qismayn, ahl as-sa'ada wa ahl ash-shaqawa, ils se diviseront en deux, les gens bienheureux et les gens malheureux. Et dedans Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de l'enfer. Il nous parle du paradis, il nous parle du jugement subhanahu wa ta'ala. Wa lamma kana alayhi salatu wa salam yatadabbaru al-Qur'an athara fihi hatta ja'a ash-shay' fi ra'sihi wa lihiyatihi. Et donc ici on apprend la raison pour laquelle il a eu des cheveux blancs. Vous savez c'est quoi? C'est la méditation du Qur'an, particulièrement la méditation de ces passages du Qur'an dans lesquels Allah Azza wa Jal fait référence à ce qui se passera le jour du jugement dernier, les scènes terribles et atroces qui vont avoir lieu quand on va rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min huna nastafid ahammiyata tadabbur al-Qur'an, et à partir de là on tire une leçon qui est l'importance de méditer le Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anzal al-Qur'an liyutadabbar, Allah a fait descendre le Coran pour qu'il soit médité. Qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, limadha? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. C'est un livre que nous avons fait descendre vers toi, béni, afin que ses versets soient médités et que les gens doués de raison se rappellent. Fanas'alu Allah ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqana tadabbur al-Qur'an, et on demande à Allah par ses noms et ses attributs les plus beaux et parfaits qui nous donne la méditation du Qur'an. Donc ici on voit l'effet que la méditation du Qur'an peut avoir sur une personne. Et le Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad hafidhahullah dit que celui qui médite le Qur'an, tadabbur al-Qur'an la ya'ti illa bil khayr fil insan, تدبر القرآن يصلح الإنسان ويصلح قلبه ويصلح حياته وأعماله. La méditation du Coran corrige la personne dans sa vie, corrige son cœur, corrige ses actions. Elle corrige tout. اللهم وفقنا لتدبر القرآن. Qu'Allah nous aide à méditer son livre سبحانه وتعالى. خلاف ما يكون عليه أكثر الناس مع الأسف. يأتيهم الشيء بسبب الدنيا بسبب المال Wal'ayadu billah. Regardez la situation du prophète alayhi salatu wassalam et regardez celle de la plupart des gens qui ont eu des cheveux blancs à cause des soucis de ce bas monde, à cause des soucis de dunya, de l'argent et du travail, courir derrière dunya, courir derrière ce bas monde. Yajri ahaduhum wara ad-dunya jarayan al-kalb wal'ayadu billah. L'un d'entre eux court derrière la dunya comme le chien qui court derrière sa proie. Wal'ayadu billah. فحتى بعض الناس أصابهم المرض الشديد بسبب هم الدنيا سبحان الله. À un point où certaines personnes sont tombées malades et ont eu des grandes maladies à cause de cette dunya. Quand tu lui dis qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu es tombé malade, il te dit j'ai trop de problèmes. هل تدبر القرآن هو الذي أدى بك إلى هذا؟ Est-ce que c'est la méditation du Coran qui t'a rendu comme ça? كان بعض السلف يموت إذا تدبر القرآن. Certains des pieux prédécesseurs mouraient quand ils entendaient le Coran. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي يوما ما. Un jour عمر بن الخطاب يصلي بالناس. Il prie devant les gens. ويقرأ سورة الطور. Et il récite سورة الطور. ولما وصل إلى قوله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع أي حاصل لا أحد يدفعه سقط ومرض مدة 40 يوما. سبحان الله. عمر بن الخطاب a récité ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit le châtiment de ton Seigneur est inéluctable, inévitable, il va arriver, personne ne pourra le repousser. Il est tombé par terre, il est tombé malade pendant 40 jours. Il était dans le lit, il n'arrivait plus à se lever. Radiallahu anhu. فالإنسان المسلم يتدبر القرآن. Le musulman il doit méditer le Coran et il doit le comprendre et le mettre en pratique. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. On demande à Allah سبحانه وتعالى qu'il nous fasse méditer le Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u Allah tabaraka wa ta'ala wa yas'aluhu an la yaj'ala ad-dunya akbar hammi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah tabaraka wa ta'ala et il lui demandait de ne pas faire de ce bas monde son plus grand souci. Laysa ma'na hadha tatruk ad-dunya bil kulliyah. La, Allah qala fil Quran wa la tansa nasibaka min ad-dunya. On n'est pas ici en train de dire reste assis chez toi et abandonne tout, ne fais plus rien de ce bas monde. Ce n'est pas ça qui est voulu. لا يقول هذا إلا مجنون. Seule une personne folle dit une telle parole. لكن المقصود أن همك الأول والأكبر الدار الآخرة والدنيا بعد هذا تأخذ منها نصيبك. Tu prends ta part de ce bas monde, mais ton plus grand souci c'est l'au-delà. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول prophète disait dans ses invocations اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. Il disait oh Allah ne fais pas de ce bas monde notre plus grand souci. لأن من كانت الدنيا أكبر همه ابتلاه الله عز وجل بأنواع البلاء والعياذ بالله. Car celui qui fera de ce bas monde son plus grand souci sera éprouvé par Allah tabaraka wa ta'ala par plusieurs sortes d'épreuves. نسأل الله السلامة والعافية. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Le hadith suivant عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله يعني الصحابة قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال شيبتني هود وأخواتها. فالحديث معناه واحد. Ici le hadith a le même sens. Il est rapporté par Abu Juhayfa, un autre compagnon, radiallahu anhu, mais le sens est le même. Les compagnons sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui ont dit, ils lui dirent, ô messager d'Allah, nous voyons que tes cheveux blanchissent. Et ici, on sait qu'il n'avait que combien de poils blancs ? À peu près 14. Et malgré ça, les sahaba ont remarqué. Ils ont remarqué, ils ont cherché à savoir pourquoi. Est-ce que le prophète alayhi salatu wasalam a des soucis? Est-ce qu'il pense hal huwa mahmoum? Hal huwa yani yufakkiru fi shay? Est-ce qu'il pense à quelque chose? Est-ce qu'il a un problème? Ya Rasulallah, innaka naraka qad shibta masajid Allah. Nous avons vu, nous voyons que tes cheveux blanchissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Uhud, et ces sourates sœurs ont fait blanchir mes cheveux. C'est-à-dire Uhud, la sourate, dans, lisez sourate Uhud et vous comprendrez inshallah. Sourate Uhud, Allah azza wa jalla nous parle du paradis de l'enfer. Il nous parle des bienheureux et des malheureux. Et les sourates semblables, toutes les sourates qui ressemblent à Uhud, les sourates qui parlent de Nar et qui parlent de Jannah, ont donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam des cheveux blancs. Alayhi salatu wa salam. Fa ma'nahu nafsu ma'na al-hadith al-sabiq. Donc le sens de ce hadith est le même que le sens du hadith précédent. Al-hadith al-tali, le hadith suivant. An Abi Rimthah al-Taymi, Taym al-Rabab, radiyallahu anhu. Donc un compagnon qui s'appelle Abu Rimthah, رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيت هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة، أول مرة يرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. Ce compagnon Abu Rimtha nous raconte la première fois qu'il est venu voir le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et donc il nous dit: je me rendis auprès du prophète صلى الله عليه وسلم que je montrais à mon fils avec moi. C'est-à-dire qu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a pris avec lui son fils. Et c'était la première fois qu'il l'a vu, alayhi salatu wa sallam. Et la chose, une leçon qu'on peut tirer ici, mimma nastafidu min hadhihi al-faqra wa hadha al-juz'i min al-hadith, annahu yanbaghi lil-muslim an yashaba ma'ahu waladahu fi al-majalis al-tayyiba, fi majalis al-dhikr wal-ilm. لأن هذا الصحابي أتى النبي عليه الصلاة والسلام مع ولده. Et on tire ici qu'il convient aux musulmans, lorsqu'il va dans des assises, que ce soit des assises de science ou de rappel, ou dans des endroits où il y a des gens pieux qui craignent Allah, où il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il vienne avec son fils et qu'il vienne avec son enfant. لأن هذا تربية الله, afin que son enfant s'éduque et prenne l'habitude de voir les bons endroits et de voir les bonnes choses. Et c'est pour ça que ce compagnon est venu avec son fils. Il est venu avec son fils voir le prophète, alayhi salatu wasalam. Et il dit que fa'uritu. Et ici, il y a une erreur dans la traduction. Car dans la traduction, on nous dit, je me rendis auprès du prophète, sallallahu alayhi wasalam, que je montrais à mon fils avec moi. Ce n'est pas ça qu'il a dit, le compagnon. Le compagnon a dit qu'il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son fils et on lui a montré le prophète. C'est-à-dire, on va plutôt dire, je me rendis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on m'a montré avec mon fils, avec moi. C'est ça la bonne traduction. Donc, ici, il nous explique qu'on lui a montré car il ne savait, il ne l'avait pas encore vu. Il ne l'avait pas encore vu et les compagnons lui ont dit, c'est lui. Et quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dès qu'il l'a vu, il a dit, هذا نبي الله. Il dit, voilà le prophète d'Allah. Donc ici, il est content. Il est content pour la première fois, il va le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et va venir la partie du hadith qui concerne ce chapitre. يأتي هنا محل الشاهد. Il nous dit, il porte deux vêtements verts, alayhi salatu wassalam. Certains de ses cheveux commencent à blanchir et ceux-ci sont roux, alayhi salatu wassalam. Donc voilà la partie du hadith pour laquelle l'imam Tirmidhi a cité ce hadith dans ce chapitre qui concerne les poils blancs du prophète alayhi salatu wa salam. Car quand Abu Rimtha radiallahu anhu a vu pour la première fois le prophète alayhi salatu wa salam, il l'a vu vêtu d'un habit vert, et Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah al-Abbad dit dans l'explication de ce hadith que son vêtement n'était pas forcément totalement vert. Il se peut qu'il était mélangé à une autre couleur. Et quand il l'a vu, alayhi salatu wa salam, il a vu qu'il avait des cheveux blancs. قَدْ عَلَاهُ الشَّيْكِ. Il a eu des cheveux blancs, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit وَالشَّيْبُهُ أَحْمَرُ. Et ses cheveux blancs viraient vers le rouge. Viraient vers le rouge. Certains disent car il les avait teints. Et d'autres disent non, c'est parce qu'il mettait la pommade. Et d'autres disent c'est parce qu'il mettait le parfum sur ses poils blancs. Et ça, on va le voir incessamment sous peu, Inch'Allah ta'ala. Le dernier hadith de ce chapitre, عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه. Ici, سماك بن حرب, c'est un tabiri, un très grand tabiri, demande à Anas ibn Malik, à Jabir ibn Samura, qui est un compagnon, radiyallahu anhu, s'il y avait des cheveux blancs sur la tête du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, il n'y avait sur la tête du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que quelques cheveux blancs au niveau de la raie au milieu. Mafriq al-ra's. والمقصود من مفرق الرأس أي وسط الرأس هذا هو مفرق الرأس. Ce qui est voulu par le mafriq, c'est le milieu de la tête. C'est pour ça qu'ici on a, ça a été traduit par au niveau de la raie au milieu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit maintenant où étaient ses poils blancs sur sa tête. On sait qu'il a eu des poils blancs sur l'anfaqa, entre la lèvre inférieure et le menton, sur les tempes, et maintenant sur la tête, particulièrement au milieu de sa tête, sallallahu alayhi wa sallam. Et le compagnon lui dit qu'il n'avait que quelques cheveux blancs au milieu de sa tête, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, voici ce qui a été cité par l'imam Tirmidhi rahimahullah concernant les cheveux blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa min huna nakunu qad anhayna hadha al-bab. Et nous avons terminé ce chapitre. Babu shaybi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons entamer le sixième chapitre bi'idhnillahi ta'ala. Le sixième chapitre, al-babu sadis, babu ma ja'a fi khidab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le sixième chapitre, c'est le chapitre concernant la teinture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La teinture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre dans le chapitre suivant? On vient d'apprendre qu'il ne se teignait pas les cheveux, alayhi salatu wa sallam. Et ici, on a un chapitre sur la teinture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maqsoud al-imam al-allama Tirmidhi rahimahullah min hadha al-bab bayan khilaf al-sahaba fi hadha. L'imam Tirmidhi rahimahullah a cité ce chapitre pour nous montrer la divergence des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la question: est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se teignait les cheveux ou non, alayhi salatu والسلام. فهي مسألة عند الصحابة. C'est une question de divergence chez les compagnons. أشار الإمام ابن القيم رحمه الله. L'imam ibn al-Qayyim dans son livre زاد المعاد, يعني هو كتاب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام, un de ses livres, les provisions du retour. C'est un livre dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans certains passages de ce livre, il nous décrit le prophète alayhi salat wa salam, et dans un passage il nous dit que les compagnons radiyallahu anhum ikhtalafu fi khidab rasulillah ay fi taghyir lawn sha'rihi ila ghayr al-abyad ila lawn akhar. Les compagnons ont divergé sur la teinture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik kana yara annahu lam yakhdib wa lam yakhtadib. Anas ibn Malik disait que le prophète ne se teignait pas les cheveux alayhi salat wa sallam. Wa min as-sahaba man kana yara annahu ikhtadaba alayhi salat wa sallam. Et certains parmi les compagnons voyaient que le prophète alayhi salat wa sallam se teignait les cheveux. Wa minhum Umm Salama radiyallahu anha, as-sahabiyyatu al-jalila. Et parmi les compagnons, la femme Umm Salama radiyallahu anha. وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى الدَّهْنِ. Et d'autres ont dit non, il ne se teignait pas, mais il se pommadait. Et quand il se pommadait et qu'il passait un produit huileux sur ses poils, on ne voyait plus la blancheur de ses quelques poils blancs, et certains pensaient qu'il se teignait, mais il ne se teignait pas. Et c'est ce que dit le Cheikh Abdel Razzaq al-Abbad, hafidhahullahu ta'ala. Le premier hadith de ce chapitre, الحديث الأول في هذا الباب وهو عن أبي رمثة كذلك rapporté par le même compagnon أبو رمثة. Il dit أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي. Il dit qu'il a été voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Je me rendis avec mon fils auprès du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. فقال ابنك هذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est ton fils? Donc il l'interroge. Et le compagnon lui dit, na'am, ashhadu bihi. Et na'am, huwa waladi, huwa ibni, wa ana ashhadu ala dhalik. Il dit, oui, c'est mon fils, et je témoigne, j'en suis témoin. J'affirme avec mon témoignage que c'est bel et bien mon fils. Qala alayhi salatu wa sallam, la yajni alayk. وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ قَالْ وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرْ. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu n'es point tenu de réparer le crime qu'il pourrait commettre, et il n'est point tenu de réparer le tien. يعني إِذَا حَصَلَتْ مِنْهُ دِنَايَ ظُلْ إِثْمْ فَلَا تَحْمِلُ وِزْرَ وَإِنْ حَصَلَتْ مِنْكَ دِنَايَ ظُلْ إِثْمْ فلا يحمل وزرك. معنى هذا الكلام لا تزر وازرة وزر أخرى. معنى هذا الكلام الوالد لا يحمل ذنب الولد والولد لا يحمل ذنب الوالد. فلماذا قال له هذا الكلام؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون هذا. فالبروفيس صلى الله عليه وسلم lui dit, tu n'es point tenu de réparer le crime qu'il pourrait commettre, et il n'est point tenu de réparer le tien. C'est-à-dire, tu n'es pas responsable de ses péchés et il n'est pas responsable des tiens. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça à ses compagnons Abu Rimtha? Parce que le peuple de Quraysh vivait dans une ignorance telle avant l'islam que certains parmi eux croyaient que lorsque le père commettait une injustice ou un péché, on devait punir le fils et l'inverse. C'est la raison pour laquelle quand le fils tuait quelqu'un, on tuait le père. Ou quand le père tuait quelqu'un, on tuait le fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam arada an yulghiya hadha al-i'tiqad al-fasid al-batil. Faqala lahu la yajni alayk wa la tajni alayk la taziru waziratun wizra ukhra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu n'es pas responsable de son crime, il n'est pas responsable du tien. Donc, يُعَلِّمُهُ, il lui enseigne. فَهَذَا الصَّحَابِي أَوَّلْ مَرَّةِ يَرَى فِيهَا النَّبِي عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ. Ce compagnon, c'est la première fois qu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَدْ يَكُدُ لَا يَعْلَمُ هَذَا الْحُكْمُ. Il se peut qu'étant donné qu'il n'avait pas encore vu le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'il ignore cette chose-là. Qu'il ignore qu'avec l'islam, ce jugement a changé. Et que maintenant, plus personne n'est responsable du péché de l'autre. La raison pour laquelle At-Tirmidhi rahimahullah a cité ce hadith dans ce chapitre, c'est qu'il a dit à la fin, وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرُ. Il dit, et donc il dit, je vis alors ses cheveux blancs comme roux. Il vit que les cheveux blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam viraient vers le roux. Ils viraient vers le roux. Et l'imam Tirmidhi rahimahullah rapporte ce hadith dans ce chapitre parce qu'ici on nous parle de la teinture. Et on est en train de chercher à savoir est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se teignait les cheveux ou non. Et on va s'arrêter ici, inshallah ta'ala, et on va continuer samedi prochain après العصر بإذن الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وصبركم وحضوركم والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك